va parler de littérature ce matin avec notre invité, Jacques-Henri, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier un récit, ça s'appelle La balance des blancs, c'est l'histoire de votre cancer, ça démarre comme ça. Un beau jour, vous apprenez que vous avez un cancer dans la prostate, et alors rien ne va plus, puisque vous avez un petit problème sexuel à la suite de cette maladie-là. Et puis, vous allez être, j'allais dire sauvé, je sais pas si c'est ça qu'il faut dire, par la littérature. On peut dire ça comme ça?
On peut dire ça comme ça. Vous savez, la littérature, il n'y a pas besoin d'avoir une très grave maladie physique pour être sauvé par la littérature. Il y a des biographies qui prouvent que c'est souvent, y compris des lecteurs d'ailleurs, on peut être sauvé par la littérature. Je crois que c'est une des possibilités et une des grandeurs de la littérature.
Au tout début du livre, vous le dites, vous avez bien entendu, la vie est tragique, mais elle est belle. Et vous le dites, faites confiance à qui vous le dit, à Cervantes, Hölderlin, Stendhal, Nietzsche, Tolstoï, Proust, Bataille, Mozart, Alban de Berne, mais aussi Debord, peignant de noir son écran. Il est question de blanc, et on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est le titre de votre livre, La balance des blancs. Il est aussi question de noir. La littérature, à un moment donné, ça vous a aidé quand même? On a l'impression que vous êtes allé chercher dans la littérature des raisons de vivre, finalement, non?
Mais vous savez, tous les auteurs que vous citez, là, et que j'ai cité moi, que vous avez relevé dans le livre, sont des auteurs, justement, qui ont eu des vies tragiques. Et c'est avec ces vies tragiques, avec ces vies très sombres, qu'ils ont fait une littérature, que je dirais, qu'on pourrait dire lumineuse. Il y a un auteur gnostique qui dit, mais il faut savoir reconnaître la positivité du négatif, la positivité des ténèbres. Le fait qu'on soit plongé dans les ténèbres, eh bien, il faut savoir trouver dans ces ténèbres ce qu'on appelle la lumière de l'être. Voilà. Bah, la littérature, notamment, elle sert à ça.
Alors, vous le dites. Faudrait pas qu'on vous laisse penser que c'est un roman noir ou un roman, un récit triste. À un moment donné, c'est pas exempt de gravité, vous dites, quand la menace du fiasco, et on parle de votre problème sexuel, comme au premier Stendhal venu fait peser son ombre sur un membre défaillant, quel mal peut assurer qu'il n'a pas été effleuré à un moment ou à un autre par l'idée de se faire sauter la caisse? tout est là, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie dimension tragique, ça vous a effleuré.
Oui, mais bien sûr. Ben, en plus, je fais référence à beaucoup d'auteurs, précisément, qui se sont suicidés. Pour des raisons diverses. C'est des raisons quelquefois, en effet d'ailleurs, qui peuvent être sexuelles. Je pense à Hemingway ou pas Gary, mais enfin Hemingway, ou des raisons d'impuissance à la fois sexuelle et littéraire. Bon, donc c'est la vie, disons, elle est tragique, mais en même temps, il faut essayer quand on peut, et la littérature sert à ça, de prendre la distance avec ça. Alors mon livre n'est pas du tout, il n'y a pas de pathos, il n'est pas tragique, je crois qu'il est plutôt même drôle, et je crois que les gens qui avaient un peu des réticences et des amis y compris me disant « Ah, oh là là, c'est terrible, moi aussi d'ailleurs j'ai ce problème-là, j'ai peur de lire », mais non, je dis au contraire, lisez-le, vous allez voir. Non, c'est un livre gay, et ça vous prouvera que on peut très bien se sortir de toutes ces petites misères.
Et ça commence par, d'ailleurs, la description par votre médecin de l'opération qu'il va faire. Vous avez, c'est le relevé médical que vous avez pris, hein?
Ah, mais j'adore ça, parce que d'abord, je comprends pas très bien les termes.
On comprend pas tout?
Non, mais j'ai une grande admiration pour ce type de langage. Cette précision-là, pour un écrivain, c'est vraiment un modèle, hein. Les textes, par exemple, d'Ambroise Paré sont des grands textes littéraires, sont des descriptions vraiment cliniques de ce qu'est une opération. Et je trouve ça très beau. J'ai voulu, pour être immédiatement dans le sujet, j'ai voulu reprendre très exactement la description clinique de l'opération.
Incision de l'hémicirconférence antérieure du col vésical en conservant les fibres du col, puis après repérage des orifices rétro. C'est un vrai paysage, on n'imagine pas qu'on...
Absolument, j'aimerais bien d'ailleurs assister à l'opération. Je n'ai pas osé le demander au médecin, là, au chirurgien, mais j'aimerais bien voir en fait comment ça se passe. C'est quand même... c'est une plongée dans un univers là. Moi, je suis très 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 admiratif. Vous savez, j'ai une grande admiration pour les gens qui conduisent des avions parce que je trouve ça très compliqué, et pour les gens qui passent 2 heures. C'est une opération assez. C'est pas une opération grave, hein, l'opération de la prostate. C'est une opération très délicate. Elle dure longtemps. Elle dure 2 heures. Hein, c'est très compliqué. Et surtout, et je le dis dans le livre, il faut que le chirurgien ait ce que j'appelle des doigts de fée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il travaille dans la dentelle, comme dit Céline. Parce que si vous êtes un boucher, vous retirez la prostate, c'est un peu compliqué, hein. Il faut, parce qu'il faut couper l'urètre, enfin, etc. Bon. Et puis, vous retirez ça et tout. Mais, justement, et attention, pour un homme, s'il n'est pas trop encore âgé, il y a deux petits nerfs, les nerfs de l'érection. Je sais pas comment il les repère, mais si jamais vous les coupez, terminé, hein. Là, vous n'avez aucun espoir de retrouver la virilité. Dieu merci, j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait des doigts de fée. Voilà.
Alors, ce qui est absolument extraordinaire, et on va en reparler tout de suite après la pause, c'est que le chirurgien qui vous opère de la prostate, il s'appelle Casanova. C'est vrai?
Ah ben absolument.
On a du mal. C'est vrai. Alors, que ça soit vraiment, c'est incroyable.
Mais, l'ami médecin qui m'a envoyé à lui m'a dit, mais écoute, tu l'inventerais pas, il s'appelle Casanova. Ce qui est formidable, parce que ça m'a introduit le personnage littéraire de Casanova, qui est là, présent pendant tout le livre, évidemment, en plus de tout le mémoire de Casanova, la sexualité et tout, je suis en plein dans le sujet. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai quand même demandé l'autorisation au docteur Casanova, parce que je me suis dit, quand même, je peux pas me permettre, Il m'a dit très gentiment, non, pas de problème, vous m'offrirez votre livre. Et je me suis dit, si jamais il me dit non, je veux pas que mon nom... Je me suis dit, comment je vais m'en tirer pour, après ce jeu constamment entre le Casanova italien, le Giacomo Casanova, et puis le docteur Casanova. Dieu merci, ça s'est bien passé.
Le livre s'appelle La balance des blancs, c'est publié au Seuil, et c'est Jacques Henric qui est l'invité de la rédaction ce matin. Jacques Henric est notre invité pour son récit, La balance des blancs, c'est l'histoire de votre cancer de la prostate et puis de toute la littérature que vous avez relue autour de cette petite accident de votre vie. Comment vous le qualifiez aujourd'hui, ce cancer qui vous est arrivé?
Bon, écoutez, c'est d'une banalité, hélas, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Malheureusement, beaucoup de gens sont confrontés à ces questions-là. Bon, ce qu'il faut, c'est s'en sortir au mieux. Je veux dire, s'en sortir au mieux dans les soins, et puis s'en sortir au mieux dans la façon de vivre ça.
Alors, votre médecin s'appelle Casanova, c'est celui qui va vous soigner, qui va vous opérer. Oui. Et à partir de là, vous relisez Casanova, et vous retrouvez finalement le tout. Dans la littérature, tout un tas d'histoires qui sont très proches de la vôtre.
Absolument. Enfin, Casanova, j'ai pas la vie de Casanova. Je dirais presque hélas, mais bon. Non, mais
à vous lire, on se dit pas loin quand même.
Ouais, bon, d'accord. Oui, bon. Mais non, mais on retrouve Casanova avait des problèmes aussi de prostate, il a eu un moment une tentation de suicide en dépit de son optimisme fondamental, et puis surtout il y a le grand thème de la sexualité qui court tout au long évidemment de toutes les des mémoires de Casanova. Et comme c'est un des thèmes de mon livre, puisque l'opération de la prostate met évidemment en péril pour un homme la virilité, et j'ai pas besoin d'expliquer aux hommes à quel point tout de même c'est quelque chose qui est important dans leur vie. Voilà.
Et du coup, en relisant la littérature, on a l'impression que toute la littérature ne parle que de ça, et vous citez aussi bien Saint-Augustin qu'Aragon, et tout le monde ne parle que de ça.
Bah, écoutez, oui, quand on parle d'abord de choses du corps, hein, évidemment la littérature, la peinture aussi, ne parle que de ça. Et puis quand il s'agit de la sexualité, vous imaginez bien que toute la littérature mondiale depuis la nuit des temps et toute la peinture, le thème de la sexualité est constamment présent. Je dirais à la limite, s'il n'y avait pas de sexualité humaine, il n'y aurait sûrement pas ni de littérature ni de peinture. Donc inévitablement, j'ai trouvé chez tous ces auteurs des échos à ce qui était mon problème à moi.
Et ce qui est la petite misère des hommes, c'est ce sexe qui marche plus, qui est un peu pathétique, un peu tragique, finalement ça devient un roman, enfin c'est toute une histoire.
Ah ben, okay.
Vous citez à un moment ce poème d'Aragon à Venise où il s'enflamme, enfin il a des vers absolument magnifiques sur Venise, et en fait on s'aperçoit qu'il écrit, vous le dites, il écrit ce poème-là parce qu'il va...
C'est une histoire avec cette femme, Nancy Cunard, qui était sa maîtresse. C'était une des femmes, c'est ça que vous voulez
oui,
dire?
Oui,
oui. Qui a été une, avec Elsa Triolet, qui a été la grande femme de sa vie. Bon. Et qui, se trouvait avec lui à Venise. Et puis, cette femme, elle avait une vie sexuelle, très libre. Et puis, elle a quitté un moment,
ils vont à un concert et elle rentre.
Elle part avec un noir.
Elle part avec le pianiste.
Bah ouais, elle aimait beaucoup les noirs. d'ailleurs, c'était très bien. Elle a d'ailleurs beaucoup milité pour les Noirs après aux États-Unis, ce qui lui a valu d'ailleurs des insultes de tous les racistes et tout. Donc voilà. Et Aragon est plongé dans une crise de jalousie absolument terrible. Il menace de suicider. Il se suicide pas, mais d'une certaine manière littérairement, puisqu'il dit avoir brûlé un manuscrit de plusieurs milliers de pages, voilà, par désespoir. Bon. Donc vous voyez que des petites histoires simplement de sexe et de sentimentalité peuvent aboutir à des drames, mais en même temps, comme il va raconter tout ça et en faire après de la poésie, ben voilà, c'est-à-dire qu'il transcende, il sublime des choses qui sont ces petites misères dont vous parliez pour en faire des grandes choses qu'est la littérature.
Alors on démarre votre livre qui s'appelle La Balance des Blancs avec des histoires de blancs. Il y a aussi beaucoup de questions de noirs dans tout ce livre, des tableaux, des peintures dans lequel le noir a une importance primordiale. Et puis aussi question des femmes noires, la sexualité. C'est par opposition.
Oui, bah vous voyez bien que le titre La Balance des Blancs joue constamment avec cette histoire de plateau d'une balance où on met sur un plateau le noir, le blanc, le bien, le mal, l'homme, la femme, le sexe, le sentiment, etc. Donc il y a tout un jeu comme ça de dichotomie et évidemment la couleur blanc et noir est très très importante. Toute la thématique du livre repose là-dessus. Et le hasard de ma vie fait que j'ai été au Sénégal, que j'ai connu une jeune femme noire et que voilà, et du coup j'en ai fait aussi un des thèmes du livre à la fin sur l'Afrique.
Le blanc, c'est aussi ce qu'on utilise en la balance des blancs, c'est ce qu'on utilise en vidéo pour, si j'ai bien compris, régler une caméra de façon à ce que l'image qu'on donne soit la plus proche de la réalité.
Pour que oui. Moi, je savais que ça existait, mais je l'ai jamais pratiqué. Pourtant, je fais de la photo et de la vidéo. Ça consiste, je crois, à ce que la lumière des images, les couleurs, ne soit pas, gênée par la couleur de la source lumineuse. Donc, c'est une sorte d'harmonisation des couleurs, d'après ce que j'ai compris. Hein, voilà. Donc, c'est un terme technique qu'il faut pratiquer, mais je trouve ça très beau comme titre, la balance des blancs. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que votre maladie, d'un seul coup, c'est comme si on faisait cette balance des blancs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on remet les choses un peu d'aplomb et vous relisez votre histoire comme ça?
Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on recommence à zéro. À chaque fois qu'on reprend des images, on est obligé de repartir d'une source, d'un zéro.
Mais c'est la maladie qui oblige à repartir de zéro, à regarder à nouveau?
Oui, c'est la maladie, parce que c'est une maladie comme celle-là, comme vous le savez, c'est... La définition de la vie, c'est les forces qui s'opposent à la mort. Et puis il y a un moment où on vous dit, bah voilà, cet horizon de la mort, vous savez que ça existe, mais là brusquement on vous dit, mais il s'est rapproché. Donc il y a quelque chose dans la vie qui bascule à ce moment-là, où on est obligé de changer un petit peu tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant pratiqué comme idéologie, comme engagement politique, comme etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bousculé, qui fait qu'on revoit les choses autrement.
Un jour vous allez à Moscou, vous avez été communiste pendant longtemps, ouais. Vous n'étiez jamais allé en URSS.
Non.
Et un beau jour vous y allez récemment, hein.
Oui,
et là vous faites la balance des blancs, c'est là que vous allez vérifier si votre image elle est bien réglée.
Oui, exactement.
Et le manque de peau, il n'y a pas de neige.
Eh bien, primez ça. Voilà, ben oui, et ça c'est les hasards de la vie. Bon, mais en même temps, c'est tous ces hasards de la vie.
Non, mais ça veut dire que l'idée qu'on se fait, les a priori qu'on a, finalement, on a besoin de les corriger.
Bah oui, c'est un retour un peu sur soi, on revoit un petit peu sa vie, on revoit, c'est très curieux après l'anesthésie et puis ce type de maladie, enfin, j'ai le sentiment que la mémoire devient plus aiguë, c'est-à-dire que les choses que vous avez vécues reviennent avec plus de force. Et en même temps, dans un second temps, vous avez l'envie, le besoin de vous en débarrasser, notamment des choses les plus désagréables. Hein, c'est ce que j'appelle le fatras occidental. Hein, tout ce paquet d'ordures qu'on a pu accumuler en soi, on a envie de balancer tout ça, au sens justement de la balance.
On balance tout ça.
Voilà. Bon.
Il y a un côté pédagogique dans votre bouquin, parce que vous donnez envie de lire, vous donnez envie de se replonger dans la littérature. Vous avez été prof, ça vient de là ?
Bah oui, je crois que j'étais
on reste prof toute sa vie.
Oui, non, mais j'étais un assez bon prof. Seulement quand on fait un livre, c'est pas tout à fait la même chose que la pédagogie dans une classe, hein, vous imaginez bien. Bon, mais en même temps, c'est un très bon compliment que vous me faites, hein, parce que si en effet, je donne envie non seulement, pas de lire mon livre, mais de lire vraiment beaucoup, et notamment les auteurs que je cite, bah écoutez, alors bravo, j'ai bien réussi, et merci d'avoir signalé ça.
Il y a un auteur moi en tout cas, que je connaissais, que j'ai pas lu, qui est Casanova, bien sûr, qui est central dans votre bouquin.
Oui.
On a envie de vous demander un conseil, Jacques-Henri, si on devait faire une initiation à Casanova, il faudrait commencer par quoi?
Il n'y a pas d'initiation. Il faut prendre. Dans la collection, je crois que c'est la collection bouquins. Vous prenez les 3 volumes des mémoires de Casanova, et puis vous y allez. Là, il y a pour des mois de lecture, et c'est absolument fabuleux.
C'est une source de vie pour vous?
Ah bah oui, bien sûr, comme toute la littérature d'ailleurs, mais celle-là particulièrement, parce que c'est vraiment une littérature d'un optimisme fou, vraiment. Et puis en même temps, c'est d'une drôlerie. Il faut lire Casanova. D'autant plus que je rappelle que c'est écrit en français. C'est un Italien qui écrivait en français. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, on avait traduit ça, on avait censuré, alors il faut acheter vraiment la version nouvelle française authentique.
Vous citez Casanova en exergue de votre bouquin et tout est là. Je sais que j'ai existé et en étant sûr, parce que j'ai senti, je sais aussi que je n'existerai plus quand j'aurai fini de sentir.
Bah voilà, c'est une façon très matérialiste de définir la vie. Hein. Une fois qu'on a fini de sentir, voilà, c'est terminé. Bonjour chez vous. Allez.
Merci Jacques-Henri. Le livre s'appelle La balance des blancs. Ça vient de sortir et c'est paru au Seuil.